Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, quatrième émission de la semaine consacrée à la véhémence. Les intellectuels se plaignent, s'inquiètent, c'est d'ailleurs ça qui les caractérise, le lamento. Ils se demandent s'ils n'ont pas perdu l'art de la dispute. Ils se disputent d'ailleurs sur cette question, et c'est cette dispute sur la dispute que nous allons aujourd'hui, à ce micro, évoquer grâce à Laurent Jean-Pierre. Bonsoir Laurent Jean-Pierre.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Je suis très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Vous avez publié en 2016 avec Christophe Charles deux très beaux volumes sur la vie intellectuelle en France, et vous venez de publier à la découverte In Girum, les leçons politiques des ronds-points. Vous êtes aussi, je dirais, un acteur du débat politique et du débat intellectuel, notamment dans la revue Critique. Quel diagnostic vous posez sur cette question? Est-ce que c'est simplement un lamento de dire on ne se dispute plus comme avant, ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même?
Effectivement, il faut d'abord s'accorder, probablement, quand on parle de la dispute, sur les symptômes des dégradations de ces formes. Alors, de ce point de vue-là, il y a d'abord plusieurs objections qui viennent à l'esprit. Une première objection vient du fait que, au fond, les querelles, les controverses, les disputes sont l'ordinaire et de la vie intellectuelle et de l'espace public depuis fort longtemps.
Fort longtemps, c'est-à-dire, puisque vous historicisez, effectivement. Bah,
vous êtes l'historien de cette émission, Patrick Boucheron.
Oui, mais c'est moi qui pose des questions.
Oui, mais alors, évidemment, on peut trouver, justement, des formes de disputes dans les mondes intellectuels, en réalité, depuis l'Antiquité et dans plusieurs civilisations. Bon, ces formes ont changé. Ce qui est certain, c'est que ces formes se sont aussi civilisées d'une certaine manière. Je pense, par exemple, pour la période très contemporaine, au fait que les disputes ne conduisent pas, par exemple, à des duels. Le dernier duel, répertorié, est un duel des années 60, de 1967, je crois, qui a pour protagoniste notamment Gaston Defer. C'est un duel à l'épée, dans un jardin de Neuilly-sur-Seine. Et donc, les disputes verbales, les joutes oratoires, ne sont pas toujours, poursuivies par un duel guerrier. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on a régulé un peu l'espace public. Oui. On le régule de plus en plus. Certains discours sont interdits. Ça, c'est aussi, à verser à cette idée d'un processus de civilisation de la discussion à l'intérieur du débat public. Et puis, d'autres enquêtes, des enquêtes historiques. Je pense, par exemple, au très beau travail de Thomas Bouchet sur l'insulte politique. Alors, oui. On est dans des sphères adjacentes au champ intellectuel, mais c'est vrai qu'il montrait que justement les noms d'oiseaux, c'était le titre de son livre, étaient beaucoup plus employés au 19e et au 20e siècle qu'ils ne le sont aujourd'hui à l'Assemblée. Donc on voit bien que au fond même l'insulte, même l'invective, même la véhémence était peut-être beaucoup plus forte dans les périodes antérieures, en tout cas dans l'époque contemporaine, qu'elles n'ont été à d'autres moments. Et donc derrière cette idée d'une dégradation des formes de la dispute, il faut s'interroger sur au fond les motifs sous-jacents, les raisons profondes, les déterminations collectives qui font qu'on a tous cette impression. Je les vois bien, évidemment, elles sont liées aux nouvelles technologies, par exemple, on en parlera sans doute. Elles sont liées aux formes un peu de pugilat audiovisuel ou télévisuel qu'on peut voir concernant les débats publics. Elles sont liées à la multiplication des tribunes agonistiques ou antagonistes, plutôt, dans les journaux. Donc il y a des signes extérieurs, d'affrontement dans le monde intellectuel, mais je pense que ces signes extérieurs traduisent plutôt une crise, du rapport entre ce monde intellectuel et les autres mondes sociaux. Et c'est probablement de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Oui, tout à fait, parce que ce diagnostic sur la brutalité, au fond, qui serait nouvelle, inquiétante, de la dispute intellectuelle dans l'espace public, Laurent Jean-Pierre, on peut très bien, au fond, la contredire ou la contrarier avec une autre plainte qui serait celle de l'affadissement, celle du fait qu'au fond, il n'y a plus de grands, de beaux débats là-bas. Vous êtes vous-même un historien des avant-gardes littéraires et artistiques. Vous avez étudié les situs, vous avez étudié le mouvement surréaliste. Est-ce que vous êtes nostalgique de ces grands moments de véhémence et de beauté?
Oh, je pourrais l'être, mais c'est pas l'objet de cette émission. Non, c'est vrai que il y a un autre lamento que vous décrivez très bien, Patrick Boucheron, qui est celui au fond de la fin des avant-gardes, de la fin des idéologies, de la fin des grands combats politiques, de la fin des engagements, et qui est probablement, le revers de cette inquiétude autour, d'une dégradation des formes réglées, des controverses intellectuelle contemporaine. Donc, moi, je ne suis pas nostalgique. D'une manière générale. Et j'essaye d'éviter les formes, de déploration historique. Mais je m'intéresse, comme vous, à l'évolution, plutôt de longue durée, de ces formes de disputes. Au fond, dans toute dispute, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je crois que j'ai retenu ça des leçons de Jacques Le Goff. Dans toute dispute, il y a évidemment des parties prenantes, mais il y a aussi un maître, il y a un arbitre, d'une certaine manière. Et donc... la question qui, à mon avis, est devant nous aujourd'hui, c'est plutôt la question des formes d'arbitrage de la dispute, hein, des formes, au fond, de régulation de la dispute. Hein, et celles-ci ont beaucoup changé dans l'histoire. On voit bien que la forme manifeste à laquelle vous faisiez référence, qui participait d'un espace polémique ou d'un espace conflictuel, qui a été celui des avant-gardes, cette forme manifeste...
Collective aussi, d'une expression collective.
Des opinions, des engagements, des positions dans la littérature, dans l'art... dans la politique, bon, elle appartient probablement à l'âge des extrêmes, à l'âge des révolutions, mais c'est une forme qui paraîtrait complètement décalée, désuète aujourd'hui. Donc, il faut s'interroger au fond sur ces règles de la dispute et sur ces arbitrages de la dispute. Et ne pas rester peut-être ancré dans une idée ou dans un idéal passé. Alors bon, voilà, on voit bien quelles ont été ces formes. Si on veut les scander ou si on veut les rechercher de manière très très gros traits et de manière forcément un peu scolaire, peut-être scolastique comme l'a été la dispute pendant un temps, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait probablement des grandes scansions qui étaient celles que Michel Foucault avait lui-même cherché quand il faisait une histoire de la vérité ou une histoire.
On rejoint là la question du courage de la vérité.
Ou des formes du dire vrai, ou des techniques de véridiction, comme il dit parfois aussi. Et donc, il y a un âge philosophique, probablement celui que vous avez évoqué dans une émission antérieure avec Vincent Azoulay. Il y a un âge religieux, il y a un âge, scolastique, il y a un âge scientifique, et puis il y a peut-être un autre âge dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel, au fond, ces autorités philosophiques, religieuses, scientifiques, sont des autorités qui sont malmenées et qui, en quelque sorte, sont travaillées par une autorité plus diffuse que certains appellent opinion, que d'autres appelleront médias, et on va discuter
peut-être simplement de
ça.
Conversation. Et c'est cela, Laurent Jean-Pierre, que vous appelez les mauvais infinis de la dispute.
Disons que si on veut formaliser un peu les bornes de l'espace de la controverse ou de la dispute, de manière très générale, sans justement s'interroger, comme je venais de le faire, sur les formes diverses que la dispute peut prendre dans différents mondes, le monde religieux, mais le monde judiciaire aussi, ou le monde savant. Si on veut s'interroger sur ces bornes, on apercevra d'emblée que la dispute, effectivement, est... Il y a deux enjeux derrière, au fond, la pratique de la dispute ou la technique de la dispute, si on veut garder cette métaphore foucauldienne au sujet des technologies intellectuelles, des techniques de savoir, etc. Il y a un enjeu de vérité ou de véridiction, puis il y a un enjeu d'unité. Et donc,
De l'espace public ou d'unité de...
D'unité de l'espace de la controverse, et donc, effectivement, par extension, d'unité de l'espace public. Donc la dispute peut, en quelque sorte, mal fonctionner ou dysfonctionner selon ces deux dimensions. Du côté de la dimension véridictionnelle, je dirais que, effectivement, la dispute peut... peut pêcher en étant trop formel, trop rhétorique. C'est le mauvais infini, effectivement, de la sophistique, si on a une conception purement négative du terme. Et je sais que nous avons appris avec Barbara Cassin notamment que c'était une conception fausse. Mais toujours est-il qu'il y a cet écueil rhétorique d'un côté, et puis un écueil, on pourrait dire, mathématique, logique, un autre formalisme, le formalisme des arguments, des propositions de vérité complètement désincarnées, où finalement la dispute se résumerait à des écritures logiques, oui. Qui ne nécessiteraient à la rigueur aucune incarnation, aucun combattant, aucun arbitrage.
Donc d'un côté, on va au fond déplorer l'âge perdu de la conversation. Et on va évidemment tirer de cette nostalgie des conséquences politiques. De l'autre, on va s'inquiéter des blessures faites au régime de vérité.
Tout à fait. Et on a une déploration actuelle que je comprends et que j'entends et à laquelle on pourrait probablement verser la réflexion sur les dégradations ou la dégradation des formes de la dispute sur effectivement la victoire du régime de l'opinion contre le régime savant, le relativisme. Alors ça, c'est effectivement deux mauvais infinis de la dispute du côté, si vous voulez, sa fonction véridictionnelle. Mais il y a également, je dirais, des écueils du côté de sa fonction de maintien, oui. Au fond, de l'espace même, de la dispute, de maintien de l'espace public, sa fonction, disons, de maintien de l'unité d'un espace de discussion, d'un espace de controverse. Et là, bon, je dirais que, voilà, il y a d'un côté le risque d'une conversation vaine, ce que vous avez appelé l'affadissement tout à l'heure, d'une certaine manière, Patrick Boucheron, et puis de l'autre côté, dont les précieuses ridicules peut-être offriraient un modèle scolaire, en tout cas, et puis de l'autre côté, il y a effectivement le spectre de la guerre civile, c'est-à-dire d'une dispute qui justement se dégraderait tellement qu'elle en viendrait à sortir de l'espace de la discussion ou de l'éthique de la discussion pour déborder du côté de la violence physique, voire du meurtre. Et on voit que, d'ailleurs, c'est pas totalement absent de l'époque contemporaine. Dans plusieurs régimes, on a aujourd'hui des journalistes, des intellectuels qui sont effectivement assassinés ou attaqués pour leurs opinions. Donc cette dégradation ou cette augmentation de la véhémence dont vous parlez existe.
Et il faudrait effectivement en mondialiser la compréhension, même si vous avez, avec Christophe Charles, dirigé la vie intellectuelle en France, Laurent Jean-Pierre. On parlait de la France et on parlait aussi dans la quatrième partie, justement de notre temps, de ce temps des crises que vous évoquez dans le livre de 1962 à nos jours et que vous caractérisez par une lutte croissante pour l'attention médiatique. Vous y avez particulièrement étudié les tribunes et plateaux, c'est-à-dire la logique de la visibilité intellectuelle. Parce que il y a ces questions d'unité, il y a ces questions de vérité, mais il y a aussi cette question de visibilité, de lutte pour la reconnaissance médiatique. Et est-ce que c'est cela qui exaspère la discussion? Est-ce que c'est cela qui, au fond, dégrade la dispute?
Oui, je crois en tout cas que le sentiment d'une crise des formes héritées de la dispute est lié à cette concurrence exacerbée. Alors pour la reconnaissance, pour la visibilité, pour l'attention, et en réalité à quelque chose qui est plutôt quelque chose de très positif dans la moyenne durée historique derrière cette concurrence, c'est-à-dire une démocratisation de l'accès à la parole. Il y a au fond le grand mouvement de la vie intellectuelle que nous avions essayé de décrire collectivement dans cet ouvrage. C'était un mouvement au fond d'extension des points de vue, d'extension du nombre des preneurs de parole, de diversification des prises de parole.
Et de démocratisation, tout simplement.
Tout à fait, de l'accès à l'enseignement supérieur, de l'accès à l'édition, de l'accès à l'espace public. Et donc, ce mouvement, au moment même où, en réalité, il s'étend, il a pour revers cette exaspération dont vous parlez.
Parce qu'on entend bien, Laurent Jean-Pierre, on entend bien, effectivement, cette déploration. Tout cela se dégraderait parce qu'il qu'il y a des nouveaux entrants parce que, effectivement, fait effraction dans un espace public qui était jusque-là relativement préservé comme un club, bah, justement, ceux qui veulent donner de la voix.
Oui, ce tournant, on peut le dater probablement autour des années 60, 70. Et au fond, cette complainte que vous décrivez, on l'entend depuis un demi-siècle, mais on l'entend régulièrement. Et alors, à quelle occasion est-ce qu'on l'entend? On l'entend probablement dans des moments où, justement, il y a un afflux nouveau à l'intérieur. Et donc, c'est une complainte réactionnaire, effectivement, qui s'inquiète d'un changement d'arrivée, effectivement, d'un changement, disons, d'une ouverture de ce club dont vous parliez. Mais au fond, j'ai l'impression qu'il faut ajouter un deuxième élément ou un deuxième mécanisme pour véritablement comprendre ce sentiment de dégradation en utilisant justement ces données un peu morphologiques ou structurales concernant la démocratisation de la vie intellectuelle. C'est au fond au moment même où cette démocratisation est relativement forte, où elle s'accroît même d'une certaine manière, que la frustration s'exprime de la manière la plus brutale. C'est un mécanisme qu'avait bien repéré Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution, c'est le mécanisme de la frustration relative. C'est-à-dire que ce moment où, au fond, l'égalité de droit est proclamée, et là, il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment les facteurs éducatifs qu'on a évoqués, mais il y a les facteurs technologiques aussi. L'égalité de droit à la parole est proclamée, que les inégalités de fait sont, au fond, contestées avec la plus grande véhémence, et donc les règles du jeu du débat public sont, en quelque sorte, prises d'assaut ou modifiées, transformées par des nouveaux entrants qui sont dans des positions d'exclus ou dans des positions de précarité. C'est un phénomène qu'on a connu à plein de périodes historiques. Oui. C'est au fond le phénomène que décrivait Roger Chartier aussi quand il analysait les origines intellectuelles et culturelles de la Révolution française.
D'où la nécessité, Laurent Jean-Pierre, de faire une sociologie historique du champ intellectuel. Et là, on reconnaît en vous le lecteur critique, mais au fond fidèle, de Pierre Bourdieu. Mais aussi, peut-être, je voulais vous interroger là-dessus, le lecteur de Jacques Rancière, parce que en tant que vous êtes un spécialiste de l'art et du rapport entre l'art et la politique, vous devez bien, au fond, essayer de dénouer cette dispute, là encore, entre Rancière et Bourdieu. Les dominés ont-ils la science de leur domination? Est-ce qu'ils doivent donner de la voix pour dire ce à quoi ils n'ont pas accès, ou est-ce qu'ils ont effectivement ce savoir propre que leur reconnaissait Jacques Rancière? C'est quand même au fond toute la question.
Oui, vous avez raison, c'est une question très épineuse à laquelle je n'ai pas de réponse définitive, mais en tout cas, je pense que la controverse Bourdieu-Rancière autour, au fond, de la prétention de la science sociale ou de la sociologie à dire la misère du monde, effectivement, est une controverse intéressante parce qu'elle se réfracte ou elle se diffracte également dans, au fond, le monde intellectuel lui-même, dans le monde du savoir lui-même. Une partie des transformations, des conditions de la dispute dont nous discutons ce soir, a à voir probablement avec ce que Bourdieu justement appelait, de manière en partie péjorative, je crois, le populisme épistémique ou le populisme épistémologique, c'est-à-dire cette manière de dire que, au fond, toutes les formes de savoir situées, tous les points de vue, c'est le perspectivisme, disons, le perspectivisme épistémologique. Et on voit bien qu'il y a un conflit là entre, au fond, deux conceptions du savoir, deux conceptions de la science, deux conceptions de l'intellectualité, deux conceptions du discours d'autorité intellectuelle. Une qui, d'un certain côté, veut conserver l'idée d'une coupure épistémologique ou d'un régime de vérité différent l'expérience ordinaire, le sens commun et dans le monde savant, et un autre point de vue qui essaye de concevoir une continuité des formes de véridiction, des régimes de vérité. Alors évidemment, ça produit, je pense, un bouleversement profond pour les détenteurs de savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, quand on enseigne à l'université, finalement, quelle place on peut accorder à des savoirs qui sont uniquement des savoirs d'expérience, des savoirs subjectifs, des savoirs qui, c'est-à-dire que effectivement l'expérience est le point de départ et le point d'arrivée de toute forme de connaissance. Et je crois que sur ce point, il y a tout un travail au fond, non pas d'opposition entre savoir savant et savoir ordinaire à faire, mais un travail d'articulation, un travail effectivement de conversation et de dialogue qui, pour l'instant, n'a pas encore ces conditions. Donc, je dirais qu'effectivement, là, c'est probablement à ce niveau-là que les conditions de la dispute vont changer. C'est quelle place les espaces intellectuels, les espaces savants vont-ils pouvoir accorder, au fond, à ces savoirs d'expérience, à ces savoirs situés, à ces savoirs ordinaires qui, pour l'instant, ou qui, disons, historiquement, ont été, d'une certaine manière, rejetés, voire méprisés.
Vous aviez évoqué ces questions, Laurent Jean-Pierre, dans le numéro spécial de critique consacré au populisme, et vous aviez posé cette question du populisme intellectuel. On la retrouve d'une certaine manière dans votre tout dernier livre, In Girum, les leçons politiques des ronds-points, dont vous dites, plutôt que d'éclairer le mouvement, il propose au contraire de se laisser ébranler par lui. On va tenter de comprendre tout à l'heure de quelle nature est cet ébranlement.
Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de Laurent Jean-Pierre pour parler de la manière dont ça se dispute, dont ça cogne. D'ailleurs, vous avez amené une musique qui cogne, hein.
Oui, bah c'est une image qu'on peut se faire probablement de ce qui est devenu l'arène intellectuelle si on suit au fond la proposition d'une dégradation de la vie intellectuelle, d'une transformation en pugilat de la plupart des controverses. Je crois évidemment que c'est une caricature, mais je garde un très bon souvenir de la boxe. Et puis après tout, effectivement, vous parliez de Pierre Bourdieu tout à l'heure. Il y avait cette image aussi du sociologue
comme sport de combat,
en boxeur, voilà. Alors je crois évidemment que en réalité ce sont des choses très différentes, hein, précisément. On peut pas imaginer le développement des formes réglées de controverse sans une certaine justement pacification de l'espace public, et donc sans une certaine civilisation, sans un certain recul de la violence physique. Bon, c'est un point absolument important, c'est un point qu'on oublie. Justement, j'évoquais tout à l'heure, concernant les régimes autoritaires, un certain nombre d'intellectuels assassinés. Je pensais à Marielle Franco, assassinée le 14 mars 2018 à Rio de Janeiro, ou à Anna Politkovskaya en 2006 en Russie. Bon, voilà, il y a des cas nombreux qui sont d'ailleurs régulièrement aussi recensés, notamment par Reporters sans frontières. Donc ces cas nombreux nous rappellent que dans plusieurs régimes, politique, eh bien effectivement, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de débattre se traduisent par, au fond, la possibilité de mourir.
Et c'est bien la question, effectivement, que historiquement on pose en longue durée. Vous aviez évoqué les travaux de Vincent Azoulay qui était à votre place avant-hier. Est-ce que la parole violente est l'antichambre du passage à l'acte? D'une certaine manière, dans notre diagnostic pessimiste sur une dispute dégradée, on fait porter la responsabilité beaucoup, souvent, communément, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça serait cela qui exaspérerait le conflit. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez au fond? Et parce qu'il y a des études là-dessus, on peut pas se contenter simplement d'impressions.
Tout à fait. Alors je lis des travaux justement sur les formes de la discussion publique sur les réseaux, sur les forums, sur Internet, la discussion ordinaire ou de la discussion autorisée. Bon. Alors, leurs résultats sont nombreux, mais c'est vrai que deux résultats retiennent mon attention. Le premier, c'est que ce sont des espaces où la polarisation des opinions peut être extrêmement rapide. Hein. C'est la réduction ad hitlerum dont on parle parfois, c'est-à-dire qu'une polémique s'engage et puis très vite, on en vient à des propos négationnistes au bout de X échanges de coups ou de propos. Bon, alors cette idée, évidemment, est une idée régulatrice, quelque chose d'un peu extrême pour concevoir, en tout cas, ces effets de polarisation. Donc, évidemment, ce ne sont pas des espaces, a priori, la nuance est de mise. Ça, c'est un premier élément, la nuance ou la synthèse, hein, ou la combinaison d'idées hétérogènes. Deuxième élément, deuxième résultat, dans d'autres observations, d'autres chercheurs voient, au contraire, des effets de niche, c'est-à-dire, au fond, une fragmentation de l'espace public.
On viendrait chercher l'assentiment et on serait dans cette bulle au fond d'accord avec nous-mêmes.
Absolument. On lit, on retweet, on abonde du côté de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on apprécie déjà, de ce vers quoi on opine déjà.
Et on finit donc par adhérer à nos propres convictions.
Absolument. Et donc il y a un effet d'auto-centrement et de clôture. Donc on a au fond deux figures, là aussi deux mauvais infinis, hein, de la discussion sur Internet. La figure de la clôture, de la fragmentation des mondes, hein, qui n'est pas sans rappeler le relativisme dont je parlais plus tôt, hein, ou le perspectivisme dont je parlais plus tôt, et puis, disons, la figure de la polarisation, de l'exacerbation des passions, de la véhémence dont vous parliez au début de l'émission. Donc ce sont deux figures qui sont particulièrement désagréables. Hein, voilà. Mais alors par ailleurs, je crois que là,
comment la critiquer d'ailleurs cette impression, parce que au fond vous avez avec Christophe Charles, je le rappelle, dirigé cette vie intellectuelle, cette histoire de la vie intellectuelle en France. Finalement, la presse d'opinion faisait ça très bien au temps du journal, de nous enfermer dans nos propres convictions. C'est pas propre aux réseaux sociaux.
Non, je crois pas qu'il y ait une nouveauté technologique. Je crois que les règles, effectivement, de la controverse sur les réseaux sont un peu différentes. Je crois que les possibilités d'anonymat changent un peu ces règles du jeu. Mais je crois là aussi qu'il faudrait se méfier d'un déterminisme technologique trop simple. Alors il faut là aussi regarder un peu plus dans le détail, au fond, quelles sont les forces à l'œuvre dans les espaces numérique. Dans l'ouvrage dont vous parlez, Nicolas Hubé, qui est un collègue politiste et qui travaille beaucoup sur ces rapports entre médias et politique, a étudié un peu justement la manière dont l'espace public sur Internet se transforme. Il montre des choses qu'on oublie souvent. Justement, par exemple, il montre que les autorités symboliques ou par exemple les journaux papier, les médias classiques comme France Culture, comme Arte, ont beaucoup plus d'audience sur Internet que n'en ont tel ou tel blogueur, tel ou tel youtubeur ou tel média.
Oui, il y a toujours une prime au fond.
Il y a une prime aux anciens.
Les plus légitimes.
Il y a une prime aux anciens dans des formes qui sont très imposantes, puisque par exemple, en 2014, Arte TV a 4 millions de vues régulières, alors que voilà, La Vie des Idées n'en a que 120 000, alors pourtant qu'elle est adossée à d'augustes institutions académiques françaises. Donc du coup, c'est vrai que Il y a quand même des primes à l'ancienneté, il y a quand même une hiérarchie du pouvoir symbolique ou dans le monde internet, mais qui ça résiste. n'empêche pas cette multiplicité effectivement des points de vue d'être beaucoup plus visible en quelque sorte qu'elle ne l'était autrefois, où elle était probablement confinée à l'oralité.
Oui, et donc d'une certaine manière, c'est le passage de conversations qui n'avaient pas vocation à être dans l'espace public qui font effraction. Mais effectivement, ces questions de visibilité et de virulence et de leur capacité de mobilisation des réseaux sociaux, ça vaut la peine d'y aller voir au-delà de l'idée qu'on peut s'en faire de façon un petit peu sommaire. Vous l'avez fait, par exemple, dans un article récent en 2017 des actes de la recherche en sciences sociales avec Choukri Med, qui s'appelait « Révolution et crise politique au Maghreb et au Machrek ». Et là, vous montriez que justement, c'est ce qu'on appelle le printemps arabe, les révoltes, eh bien qu'on associe aux réseaux sociaux, elles mobilisaient aussi avec des institutions plus traditionnelles finalement.
Tout à fait. En effet, ces révolutions avaient été qualifiées de révolutions justement internet liées à Facebook, etc. Et les travaux de collègues ou les travaux qu'on a fédérés dans ce numéro, montraient qu'en réalité, oui, des réseaux syndicaux plus anciens, même dans des pays où il y avait un seul syndicat, des réseaux de mobilisation plus anciens autour des droits de l'homme avaient eu un rôle dans les révoltes arabes. Et au fond, les réseaux n'avaient eu qu'un effet d'amplification ou de fédération ou de liaison éventuellement avec de nouvelles générations, mais qu'elle n'avait pas eu un effet véritablement déclencheur. Donc oui, il faut toujours se méfier d'une interprétation trop hâtive de cette puissance des réseaux sociaux. Ça vaut aussi évidemment pour les discussions aujourd'hui, les controverses sur Twitter ou sur Facebook. Un des points d'entrée possible pour réfléchir, comme vous m'y invitez, sur les formes contemporaines de la dispute, ça serait de réfléchir à ce que certains historiens des sciences ont appelé la production du doute, ce que d'autres étudient justement sur. Et donc là, bon, on a des cas très 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 évidents aujourd'hui. Comment le climato-scepticisme gagne-t-il les esprits, c'est pas qu'une affaire de prise de parole démocratisée sur les réseaux sociaux.
Non, c'est plus méthodique.
C'est pas qu'une affaire d'ignorance diffuse ou d'éducation insuffisante. Oui, c'est plus méthodique, comme vous le dites, Patrick Boucheron, c'est une affaire. En réalité, il y a une organisation, de la production du faux, qui vient heurter les institutions de production du vrai. Et donc, au fond, là, on touche, je pense, du doigt quelque chose de plus important, peut-être, que cette véhémence dans la dispute contemporaine. On touche, effectivement, le problème des conditions de puissance de la vérité, quoi. S'il est admis que la vérité est produite selon des règles qui sont historiquement changeantes, c'est ce que nous rappelle Foucault, malgré tout, quelle est la puissance publique des vérités établies dans des sphères où justement on a réglé le partage du vrai et du faux. On voit bien qu'aujourd'hui on est face à un moment singulier. Je pense pas là non plus que ce moment soit inédit historiquement.
Bien sûr.
Mais disons cette désétatisation des activités, disons de propagande, si on garde un sens péjoratif à ce terme, ou des activités de production du faux, si on veut garder cette expression, cette multiplication de la production du doute, évidemment, a de quoi inquiéter. Surtout s'il s'agit de réformer les sciences, s'il s'agit de faire valoir, des urgences de manière large. C'est probablement là non plus, aux yeux de l'historien, pas quelque chose de très nouveau. Mais on voit bien que, la diffusion de ces fake news modifie aussi les conditions de la dispute.
On a reproché d'ailleurs au début, au mouvement des Gilets jaunes, de relayer du complotisme, de l'anti-intellectualisme, du populisme. Vous abordez de front cette question dans ce beau livre, Ingirum, les leçons politiques des ronds-points. Je reviens quand même à cette phrase que j'avais citée tout à l'heure parce qu'elle m'intéresse, elle m'intrigue. Ce livre, dites-vous, il n'éclaire pas le mouvement. On peut entendre de deux manières, d'ailleurs, cette expression, la manière philosophique, éclairer le peuple, la manière scientifique, l'expliquer. Au contraire, il se laisse ébranler par lui. C'est-à-dire que vous avez été, d'une certaine manière, dans ce livre, et c'est là sa force, accueillant à une forme de contestation qui, au départ, n'est pas exactement celle qu'on attendait, peut-être pas celle qu'on espérait, mais qui existe, qui a été disqualifiée, et que, effectivement, vous, comme intellectuel, Laurent Jean-Pierre, vous vous donnez, au fond, la mission de montrer tout ce que ça change en nous, et y compris dans l'art de la dispute.
Indépendamment des observations ou des jugements qu'on peut avoir sur ce mouvement, je prends acte, en tout cas avec cette phrase, vous venez de le dire, du fait que, le discours scientifique, le discours des sciences sociales, puisque c'est mon métier,
a été un peu mis en défaut.
Alors il a été un peu mis en défaut par ces événements, mais qu'il est en réalité, d'une manière plus générale, il est en crise de légitimité.
Oui,
bon,
oui.
C'est ce qu'on a un peu décrit jusqu'à présent. C'est-à-dire que les transformations des formes actuelles de la dispute sont aussi, à associer à la perte de légitimité, des discours scientifiques. Alors qu'il y a des causes extrêmement fortes, mais qu'il y a des causes morphologiques, démographiques, qu'on a un peu évoquées tout à l'heure, mais qu'il y a aussi des causes, intellectuelles, culturelles, plus profondes. Cette critique des sciences, évidemment, elle date pas d'hier, elle est constante, elle a des sources obscurantistes, antirationalistes, spiritualistes, certainement, mais elle a aussi des sources à l'intérieur même du monde intellectuel athée, elle a des sources hypercritiques. On a d'ailleurs pu dire que Foucault servait d'une certaine manière le relativisme et au fond servait la critique de l'autorité scientifique. Et donc, je prends acte, au fond, oui, de l'idée que, ce n'est plus ou ce n'est pas le rôle, des chercheurs, des professeurs, des intellectuels, que de donner des leçons. Alors ici, soit des leçons politiques, des leçons de révolution. Et on a entendu beaucoup de, y compris de gens qui étaient très très intéressés par le mouvement, être en position de surplomb.
De faire la leçon.
Oui, de faire la leçon. En disant,
c'est
oui,
là où effectivement le lecteur de Rancière que vous êtes, d'une certaine manière, s'alerte et s'inquiète.
Voilà, alors je m'inquiète pour des raisons théoriques, mais je m'inquiète aussi du fait que ces raisons théoriques, je vois qu'elles correspondent effectivement à une transformation, des conditions du magistère intellectuel. Que ce magistère n'a plus les appuis qu'il avait autrefois. Je crois qu'il faut en tenir compte dans notre travail. Ça veut dire que on peut se plaindre. On peut dire mais voilà, comment se fait-il qu'on ne soit pas écouté, comment se fait-il qu'on ne soit pas entendu, comment se fait-il que les leçons de tel ou tel professionnel de la révolution n'aient pas été suivies par les gilets jaunes. C'est ce que certains ont déploré. Bon,
mais on peut aussi se mettre au travail.
Mais on peut aussi dire
c'est
voilà
ce que vous avez fait, Laurent Jean-Pierre.
On peut aussi critiquer nos procédures.
Voilà.
Et justement, s'interroger sur nos procédures, au fond, de travail, nos procédures de discussion, profiter de cette occasion de crise pour transformer, au fond, notre rapport à la véridiction.
Alors c'est là, d'ailleurs pour ça, pardon de vous couper, Laurent Jean-Pierre, mais c'est pour cela, effectivement, qu'il faut lire pour moi ce livre important. C'est parce qu'au fond, c'est aussi une défense des sciences sociales, pour peu qu'elles acceptent, effectivement, de se laisser inquiéter par un mouvement qui la déborde, et pour peu justement qu'elle demeure pleinement une science compréhensive. Vous dites du mouvement des Gilets jaunes, au fond, qu'il était, ou qu'il est, improbable, impur et inventif. Et c'est cela qui nous met en demeure de le comprendre. Improbable, impur, inventif.
Oui, alors c'est un point d'étape. De toute façon, vous disiez vous-même d'ailleurs, je crois, que l'archive d'un tel mouvement était tellement vaste qu'il faudrait des décennies pour pouvoir l'étudier. C'est un point avec lequel je suis en plein accord. Mais en tout cas, oui, je crois que il est plus intéressant de voir en quoi l'existence d'un mouvement aussi imprévisible nous oblige à modifier nos catégories d'analyse que d'essayer à tout prix de faire entrer les catégories d'analyse préexistantes des mouvements sociaux, de faire entrer ce mouvement dans ces catégories d'analyse préexistantes. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas d'esquisser avec ce livre. On n'est pas dans une émission sur les mouvements sociaux, donc je crois que c'est pas nécessaire de rentrer dans le détail. Par ailleurs, évidemment, je suis aussi donc oui, cette démarche, on peut dire que c'est un moment populiste dans le travail scientifique. Je crois en réalité qu'on ne sort pas véritablement, si vous voulez, du couple, populisme épistémique intellectualisme. C'est-à-dire qu'en réalité, on oscille toujours, notamment dans le rapport à des mouvements populaires, entre un regard de surplomb et un regard empathique. Et donc, c'est très difficile de trouver, un juste milieu, une voie médiane. Ça n'a même pas de sens. Ce qu'on peut simplement essayer de faire, c'est de dialectiser ce rapport. Et donc là, il me semble qu'on est dans un moment où l'écart est tel, au fond, entre les cultures savante et une partie des discours qui circulent dans l'espace public, que c'est à nous d'aller se rapprocher, de ces discours plutôt que précisément de se plaindre d'une incompréhension, d'un malentendu dont on serait victime.
C'est-à-dire voir aussi dans ces mouvements ce qu'ils ont d'inventif. Et vous le faites avec beaucoup de générosité, Laurent Jean-Pierre, ce qu'il y a d'inventif pour réinventer, au fond, nos procédures, nos méthodes et nos manières de se parler aussi.
Alors, ce qu'il y a d'inventif, justement, n'est pas probablement dans l'ordre du discours. C'est aussi une difficulté que rencontre, au fond, tout chercheur ou tout intellectuel dans le rapport qu'il peut avoir à des pratiques peu verbales. Hein. Je retrouve d'ailleurs une critique que Bourdieu a fait lui-même. C'est pour ça que le dialogue, ou plutôt la scène que vous avez posée tout à l'heure entre Bourdieu et Rancière, est une scène en réalité compliquée, parce qu'il y a du Rancière chez Bourdieu, il y a peut-être un peu moins de Bourdieu chez Rancière, mais en tout cas, il y a du Rancière chez Bourdieu. Et le Rancière qui existe chez Bourdieu, c'est justement quelque chose qui a été très important dans l'écriture de ce livre, pour moi, comme une ligne un peu directrice du travail. C'est la critique de ce qu'il appelle le biais intellectualiste, hein, c'est-à-dire cette habitude qu'ont justement les intellectuels, les savants, les chercheurs, de penser les choses à partir des idées, à partir du discours, à partir de la verbalisation, et au fond de hiérarchiser les pratiques depuis ce discours. D'où, par exemple, le procès en incohérence des revendications gilets jaunes. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de les regarder autrement, c'était de nous dire, bon voilà, ce qu'on voit d'un côté comme une incohérence, est-ce qu'on pourrait pas le voir de l'autre côté comme une forme de critique de l'idée même de revendication, ou de critique au fond de ce que j'ai appelé l'abstraction politique, c'est-à-dire justement d'une distance entre au fond les programmes, les représentations politiques, et au fond l'expérience vécue. Hein. C'est juste un pari interprétatif, hein, bien entendu, mais on voit en tout cas que il y a quelque chose évidemment de situé dans le point de vue savant et dans le point de vue intellectuel. Il y a au fond toute une auto-analyse ou une auto-socio-analyse, comme disait Bourdieu, à faire de cette situation, qui est une sorte de préalable un peu épistémologique à la production de tout discours savant. C'est au fond ça qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Dans le mouvement des sciences sociales, c'est pas justement la conquête des esprits, l'analyse qui est en rupture avec le sens commun, mais c'est justement ce mouvement autocritique qui permet de comprendre les conditions particulières, singulières de production d'un discours qui lui-même est limité à la fois dans la qualité de ses énoncés, mais aussi dans sa puissance sociale.
C'est ce que vous appelez dans Ingi Room la relocalisation du politique, et au fond l'espace savant ne peut s'en exempter, il doit aussi se retrouver ses lieux qui sont ces lieux de dispute, mais aussi ces lieux d'un savoir pratique. Merci Laurent Jean-Pierre.
Merci beaucoup Patrick Boucheron.
Matière à penser, Laurent Jean-Pierre, Éric Boisset, Justine Wild, Sandrine Chaperon, Catherine Donné, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, pour la dernière émission de cette semaine, j'aurai le plaisir de recevoir à ce micro Chloé Delhomme. Bonne soirée.